Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel. Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Salut. Alors, vous êtes sur FPP 106.3. Et normalement, puisque vous avez écouté ce jingle, vous savez que vous écoutez Langue de Fronde. Ce soir, on s'est posé la question de comment on allait appeler l'émission. Le 8 mars antifasciste. Résistance féministe, féminisme antifasciste, antisioniste, antiraciste ou même résister tout court. Et celui qui nous plaisait le plus, c'était faire bloc, parce que ça raconte à la fois un positionnement et en même temps un mode d'action. Et c'est ce dont on va aussi parler ce soir. Donc bon, on n'a toujours pas de titre pour cette émission, mais on n'a jamais été aussi nombreuses en plateau. Et ça fait quand même plaisir. Car nous sommes 7, 9, non, je ne sais plus combien on est. Nous sommes 7, et non, nous sommes 8, car vient d'arriver une nouvelle personne. Voilà, alors moi je suis Mirko de Langue de Fronde.
Et Sacha de Langue de Fronde.
Derrière la vitre, il y a Lou et Liam. Derrière l'enregistreur, il y avait Astrid. Et derrière l'ordi pour faire son montage, il y avait Isée qui est allongée sur son canapé. Donc on va faire un premier petit tour pour se présenter, à la fois les personnes et puis les collectifs.
Ok, et je vais lancer le tour. Moi, je milite au CLAF. On sera deux du CLAF ce soir. Le CLAF, c'est le collectif en lutte pour l'autodétermination féministe. C'est issu de la transition de l'Assemblée féministe Paris-Banlieue, que vous connaissez peut-être, en collectif. Donc récemment, là. Et on lutte pour un féminisme antifasciste, antisioniste et antiraciste. Et on croit beaucoup aux alliances pour faire ça.
Salut, alors moi je milite au BAD, c'est le bloc d'action déviant et on a même un petit sous-titre, c'est parce qu'on l'a mauvaise, voilà, et on est trois sur ce plateau.
Moi je suis là pour les féministes révolutionnaires, on est un collectif de lutte des classes qui va fêter ses 10 ans en septembre, antifasciste, antiraciste et anti-impérialiste, et aussi pour les alliances dans ce contexte actuel.
Merci à tous d'être ici et du coup, pour contextualiser cette émission. Donc cette émission, on a commencé à la réfléchir en début d'année 2026, notamment autour de deux événements. Du coup, tout d'abord le 14 février dernier, pour celles qui auraient été un peu distrait, il y a eu une conférence de l'eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon, autour de laquelle le collectif Némésis, sur lequel on va revenir très vite, mais qui globalement se revendique d'un féminisme identitaire, a manifesté. Et autour de ces deux événements connectés, il y a eu des affrontements entre FAF et Antifa qui ont mené à la mort de Quentin Derenc, militant néofasciste de 23 ans. Donc ça, c'était un premier point pour nous. Et par ailleurs, le 25 novembre dernier, comme probablement beaucoup s'en souviennent, pendant la manif contre les violences sexistes et sexuelles, les collectifs Némésis, toujours, et donc un autre collectif qui s'appelle Nous Vivrons, un collectif sioniste sur lequel on va revenir aussi, ont pu globalement participer de près ou de loin à la manif, notamment grâce à l'appui et à la protection de divers soutiens d'amis FAF et ou flics. Et du coup, avec le 8 mars qui arrivait et avec son lot de réjouissances revendicatives, sans savoir à l'époque du coup si Némésis et Nous Vivrons seraient autorisés à manifester, on a voulu créer un espace pour prendre le temps de parler de l'organisation de nos espaces de lutte féministe, notamment quand ceux-ci sont menacés par des collectifs fascistes. Et du coup, donc pour lancer cette émission, cette discussion, on voulait vous proposer un premier extrait. Donc c'est un extrait d'un entretien de Léane Alestra qui est passé donc, dans Blast en juillet 2025 et qui répond à la question « Pourquoi l'extrême droite s'empare-t-elle du féminisme ?»
Alors déjà parce que le féminisme est populaire, que c'est un des mouvements aujourd'hui sociaux qui met le plus de personnes dans la rue. Bien sûr, il y a eu les retraites, etc. Mais aujourd'hui, tous les ans, c'est les féministes qui font partie des mouvements sociaux les plus forts. Donc forcément, tout le spectre politique se revendique féministe. Et les historiennes du genre ont montré qu'à chaque vague féministe, eh bien, tout l'échiquier politique se revendique féministe. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on est dans du fémo-nationalisme, voire du fémo-fascisme. Le fémo-nationalisme, c'est une notion qui a été créée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler de l'utilisation d'une rhétorique des droits des femmes à des fins xénophobes, sécuritaires, racistes, etc. Et donc, elles vont utiliser la rhétorique des droits des femmes pour faire avancer une forme de guerre culturelle et civilisationnelle qui voudrait dire qu'en France, il n'y aurait plus de patriarcat et que le patriarcat, il serait seulement dans les autres pays. Donc déjà, c'est intéressant parce que quand on remonte en fait à la politique colonisatrice qui a mené l'Occident, on se rend compte que les normes de genre aujourd'hui, c'est-à-dire hommes, femmes, hétéros, homo, cette distinction, c'est l'Occident qui l'a emmené dans plus de 80% du globe et qui a brûlé, génocidé des peuples entiers parce qu'ils étaient traités de sodomites, parce que justement les femmes dans certaines populations pratiquaient l'amour libre et c'était vu comme une hérésie totale. Donc on a imposé ces normes-là et maintenant qu'on a traumatisé des générations entières, on vient leur dire « Ah ben non, mais nous, maintenant nous sommes les vrais émancipés contrairement à vous. » Donc là on voit le retournement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme en Occident il y a eu des mouvements féministes et LGBTQIA qui ont été forts, ils ont réussi à imposer des droits, des nouveaux droits, et donc en miroir, bah, vu qu'ils ont été obligés de capituler, ils vont dire bah, ils vont reprendre cette rhétorique pour la remettre dans le nationalisme et dire c'est nous les plus éclairés, c'est nous les plus progressistes, et essayer toujours d'imposer cette dichotomie. Et puis ça permet aussi de dire qu'en France, ça permet de se dédouaner en disant en France il n'y a plus de problème, circuler il n'y a rien à voir, si vous n'êtes pas contente, allez voir ce qui se passe en Afghanistan. Donc hop, on met sous le tapis les combats en France et en même temps on fait avancer un agenda raciste. Et ça, c'est le plus important à comprendre avec le fémonationalisme, c'est que c'est toujours racisme et sexisme en tandem. Donc ça va être, on utilise des rhétoriques fémo-nationalistes ou fémo-fascistes pour faire avancer un agenda raciste. Et en même temps, pour ça, on a besoin de réifier les femmes. Donc de dire que les femmes sont forcément des figures à protéger, sont forcément vulnérables par essence, par nature. Et donc, elles ont besoin d'un État-nation fort, d'un nationalisme fort, qui serait les seuls à pouvoir les protéger des dangers extérieurs. Alors qu'aujourd'hui, pour la plupart des femmes, les violences qu'elles vivent le plus, elles le vivent chez elles.
Voilà. Donc on continue un peu les réjouissances et on va se faire une petite, un petit focus sur Némésis. Et d'ailleurs, je remercie Lou qui est derrière la vitre parce que c'est elle qui a recherché tout ça. Alors Némésis, c'est un groupuscule qui a été fondé en 2019 et qui revendique environ 300 militantes, mais seulement une dizaine seraient vraiment actives. Elles sont très suivies sur les réseaux sociaux avec des dizaines de milliers d'abonnés. Elles sont ici des mouvements nationalistes et identitaires. Sa présidente, Alice Cordier, a milité à l'Action française. D'autres membres fondatrices sont proches de la cocarde étudiante, des OAF, de Génération identitaire et d'autres groupes néo-nazis. Aujourd'hui, elles se sont aussi rapprochées de l'extrême droite partisane, notamment du RN, et en ça, elles participent à la jonction entre les groupuscules d'extrême droite et l'extrême droite partisane. Elles sont soutenues financièrement par Pierre-Édouard Sternin et par Bolloré, qui invite régulièrement sa présidente sur ses médias. Némésis s'est fait connaître en reprenant des techniques d'agite propre, en faisant des actions générant des images fortes et en décalant le débat sur des positions xénophobes ou réactionnaires, le tout associé avec une communication bien orchestrée, appuyée par les médias de la bolosphère. En novembre 2019, le collectif vient perturber les manifestations féministes autour du 25 novembre et plus tard du 8 mars. Elles viennent également régulièrement perturber des rassemblements de gauche en s'associant avec des groupes d'extrême droite violents qui leur servent de service d'ordre. L'humanité a d'ailleurs révélé des échanges entre le collectif et des militants néo-nazis où le collectif propose de servir d'appât dans des guet-apens visant à attaquer des militants de gauche. On sait ce que ça a donné la dernière fois. Idéologiquement, le collectif rabat les questions féministes sur une grille de lecture raciste. Elles estiment que l'égalité des sexes est déjà atteinte et que le danger pour les femmes en France réside dans l'immigration extra-européenne et dans l'islamisation, entre guillemets, de la société. Elles prônent la défense de l'homme blanc et appellent à la remigration. Elles sont transphobes, islamophobes, hostiles à la GPA et à la PMA, estiment qu'il y a trop d'avortements et prônent la complémentarité homme-femme. Donc il s'agit de dénoncer les violences faites aux femmes, mais seulement quand les agresseurs sont des personnes étrangères et que cela leur permet d'avancer sur leur agenda raciste. Et à aucun moment, elles ne demandent des droits de quoi que ce soit, à part celui d'en avoir plus que celles qu'elles considèrent comme étrangers. Voilà. Ah merde, c'est à moi. Pardon. Donc ça fait maintenant un petit moment qu'elles sont dans le paysage, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avant, elles se postaient à un coin de rue avec des banderoles infâmes entourées de leurs copains les zouaves, mais que depuis 2 ans, la configuration est différente puisqu'elles défilent le 8 mars et pour la manif autour du 25 novembre. En même temps que la manif unitaire, alors pas au milieu mais après, entourées des flics et de leurs copains faf. Et la très bonne nouvelle cette année, c'est qu'elles n'étaient pas à la manif du 8 mars. Alors, que s'est-il passé et est-ce qu'on a des hypothèses?
Ok, je me lance parce qu'on me fait signe de me lancer. nous, on a eu... ça fait longtemps qu'on les pratique, notamment plutôt sous forme de rassemblement en marge de la manif qui cherche à rejoindre la manif et qui est très protégée. Et là, cette année, en préparant la stratégie pour... le 8 dont on reparlera, nous, au moment de Quentin, on a eu très peur parce qu'on s'est dit c'était plutôt le discours médiatique, le rapport de force médiatique n'était pas du tout en notre faveur et était plutôt en faveur des fachos. Et du coup, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Et en fait, le travail d'enquête qui a été mené suite à la mort de Quentin Derenck et le travail d'explicitation que oui, c'est un militant néo-fasciste, que c'est clair, que le rassemblement aussi hommage, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 21 février à Lyon, où même BFM TV ne pouvait pas démentir qu'en fait, il y a eu des saluts néo-nazis dans cette manifestation. Le rapport de force médiatique s'est inversé. Et je pense que, en tout cas, ça a contribué à notre sens à faire que ça rejaillisse sur Némésis. Et probablement, je laisserai d'autres camarades parler, mais probablement le fait qu'elles s'auto-marginalisent dans un rassemblement dans le 16e, qui est plutôt leur zone de confort, qu'aller à la confrontation.
Oui, et je suis totalement d'accord. Et aussi, je pense qu'il faut aussi rajouter qu'en fait, il y a aussi un précédent, c'est-à-dire que la stratégie de dire non, elles ne seront pas dans nos manifs, on l'a vu par exemple l'année dernière, pour le 8 mars 2025, il y avait vraiment tout un mouvement qui a un peu surpris en fait, c'est-à-dire que pour la première fois, on avait des blocs avec des féministes qui a surpris la police, mais contre Nous Vivrons, contre Némésis. Et donc, en fait, comme il y a eu des précédents qui a été repris aussi à la Pride, lorsqu'Eros a voulu manifester, il y a aussi eu dire non, on ne veut pas défiler à l'extrême droite dans nos fiertés. Il y a aussi eu le 25 novembre où il y a eu tout un mouvement pour s'opposer encore à Némésis, Nous Vivrons. Donc, en fait, le fait qu'à chaque fois, ils voient qu'en fait, non, ça ne sera pas négociable et qu'on s'organise de plus en plus. Et en fait, je pense que aussi, c'est pour ça que en fait, l'interorganisation du 8 mars, elle a vraiment bien marché. C'est-à-dire qu'on a été des dizaines d'orgas à dire non, elles ne manifesteront pas, non, on va les bloquer, non, elles ne seront pas là. Elle et Nous Vivrons, nous n'en voulons pas. Et je pense que ça a joué. Et je pense qu'ici, il faut dire que nous n'avons pas trop de liens avec la préfecture. Et je pense qu'il y a aussi les syndicats qui ont pu négocier avec la préfecture. Mais je pense qu'en fait, sans un de ces éléments, ça n'aurait pas pu marcher. Et en fait, c'est vraiment de toutes parts, il y a eu un vrai non qui a été fait. Et je pense que ça joue, en fait, le rapport de force. Quand il est dans la rue, dans les idées, il marche.
Et puis, il y a eu un avantage assez grand, c'est que toutes ces dates qui ont été rappelées par la camarade là, en fait, elles sont arrivées progressivement et elles ont grossi aussi à l'intérieur de la manif. C'est évidemment, il n'y a aucune personne qui était pro-Némésis dans la manif, mais c'est devenu un problème et une envie d'être problématisée par tous et toutes de manière de plus en plus grande, jusqu'à ce que là, les syndicats appellent également à ce que ces deux collectifs ne soient pas présents dans la manif. Donc petit à petit, c'est devenu une demande plutôt marginale à une demande qui n'est plus radicale, mais qui est juste une nécessité pour un combat féministe collectif, quoi.
Il y a un autre groupe qui, lui, a été autorisé à défiler et qui a la même stratégie que Némésis. C'est Nous Vivrons, qui est un collectif sioniste. On en parlait tout à l'heure, mais j'invite les auditeuristes à lire les textes de Tzedek et d'Urgence Palestine sur ce collectif et d'autres groupes féministes aussi. Et pour en parler, on va, avant d'en parler plutôt, on va écouter d'abord Lucie et Sophia du collectif Urgence Palestine. Elles vont présenter Urgence Palestine et le groupe en mixité choisi d'Urgence Palestine et puis nous parler de Nous Vivrons. On écoute.
Bonjour, moi c'est Lucie et je suis militante dans une section locale d'Urgence Palestine à Paris.
Et moi je m'appelle Sophia et je suis aussi militante dans une section locale d'Urgence Palestine à Paris.
Urgence Palestine, c'est un collectif qui s'est créé après le 7 octobre 2023 et qui mène depuis la France une lutte donc, contre l'oppression et les guerres impérialistes. Et il est organisé en fait autour de voix palestiniennes donc, qui sont en France et elles portent les revendications suivantes, donc la fin du génocide et de la colonisation et de l'apartheid, la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, le retour de tous les réfugiés et un soutien total et inconditionnel à la résistance du peuple palestinien.
Par rapport donc à ce groupe en mixité choisie qui existe à UP, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce groupe-là?
Enfin, c'est surtout un groupe qui s'est créé en région parisienne avec des militants de toutes les sections. Et il s'est lancé après la manifestation du 23 novembre 2024 qui a vraiment été un choc pour nous, militantes d'Urgence Palestine. Parce qu'à cette manifestation, il y avait Nous Vivrons et Némésis, donc un collectif fasciste et un collectif sioniste qui avaient défilé dans la manifestation féministe sans encombre, sans qu'il y ait une contestation qui est organiser des cortèges. Et nous, à partir de ce moment-là, on a été plusieurs au sein d'Urgence Palestine à vraiment ressentir l'urgence de s'organiser et de réfléchir à comment confronter la question du sionisme et du fascisme dans les mouvements féministes. Et du coup, c'est vraiment à partir de nos expériences de militantes au sein d'UP, mais aussi d'expériences militantes féministes, antiracistes, anticolonialistes, syndicalistes et aussi autonomes, qu'on a formé ce groupe avec vraiment pour objectif principal d'investir les luttes féministes et d'interpeller les organisations du champ féministe sur la base de cette manifestation. Peut-être juste pour revenir rapidement sur Némésis et Nous Vivrons et pourquoi on se focalise autant sur ces organisations. C'est vraiment que notre constat de départ, c'était de dire que ces organisations, quand elles viennent à des manifestations, dans des mobilisations féministes, et c'est leur objectif principal d'ailleurs de venir dans ces manifestations féministes, c'est que ça leur fait gagner du terrain, ça leur fait gagner du terrain sur tous les plans. Sur le terrain médiatique, parce que ça leur permet d'avoir littéralement une tribune politique dans des manifestations qui sont quand même, dans le mouvement social, assez fortes et massives. Donc ça leur fait gagner du terrain parce que les médias ils diffusent leurs discours racistes, leurs discours sionistes, leurs discours réactionnaires. Ça leur fait gagner aussi des militants et des militantes, notamment Némésis qui ont vraiment recruté énormément sur la base du 23 novembre 2024, qui ont été invités dans la presse pour parler de leur manifestation jusqu'en Angleterre. Et aussi un autre truc qui est assez important, surtout avec Nous Vivrons, mais aussi avec Némésis d'ailleurs, c'est le soutien qu'elles gagnent à la tête du gouvernement et dans toutes les organisations politiques institutionnelles. Sachant que Nous Vivrons, sa particularité, c'est vraiment d'avoir un soutien qui va du PS, ou même peut-être certaines fractions d'autres partis de gauche, jusqu'à l'extrême-centre et la droite. Et donc c'est pour ça vraiment qu'on a choisi de s'organiser sur ces deux dates clés du mouvement féministe, donc la manifestation à l'occasion de la journée du 25 novembre contre les violences sexistes et sexuelles, et celle de la journée du 8 mars. Et peut-être juste pour revenir aussi sur donc Némésis et Nous Vivrons en tant que tels, Némésis, elles ont été relativement dénoncées par l'ensemble du mouvement féministe, parce que leurs discours, ils sont ouvertement racistes, ils sont ouvertement xénophobes, elles se sont construites sur ces bases-là. Du coup, les positions qui étaient affichées, elles étaient présentées comme incompatibles avec le mouvement féministe. Mais c'est plutôt sur Nous Vivrons qu'il y avait vraiment quelque chose, quoi. Et c'est aussi pour ça que là, Urgence Palestine, on avait un rôle déterminant à jouer. C'est que... il y avait vraiment dans les organisations politiques, on voyait que dans les prises de position qu'il y avait, en sachant que Nous Vivrons, elles ont défilé le 23 novembre 2023, donc un mois après, un peu plus d'un mois après le 7 octobre, c'est qu'il y avait vraiment un manque d'analyse politique sur les enjeux propres à l'antisionisme et donc à l'antiracisme, à l'anticolonialisme, mais aussi à l'antifascisme. Et nous, notre opposition totale à Nous Vivrons, elle vient du fait qu'elle se constitue en collectif, certes féministe, mais sioniste, et que donc elle revendique une idéologie qui est raciste, qui est suprémaciste, qui se matérialise depuis plus de 78 ans par le colonialisme de peuplement, le nettoyage ethnique de la Palestine, et depuis le 7 octobre 2023, par l'offensive génocidaire sur Gaza, mais aussi sur le Liban, et plus récemment sur l'Iran. Et d'ailleurs, pour rappel, Nous Vivrons, elles se sont justement créées après le 7 octobre 2023, en instrumentalisant les violences sexistes et sexuelles, le féminisme, avec pour seule fin de justifier l'occupation, la colonisation, mais aussi le génocide. Le 8 mars 2024, elles avaient défilé dans la manifestation avec un service d'ordre cagoulé, armé. Disons que c'est même ça, en fait, qui a fini presque par convaincre certaines organisations féministes, certaines, de dégager Nous Vivrons, c'est qu'elles venaient avec des hommes violents, quoi. Ouais.
Alors, on m'entend dire « ouais, c'est moi, donc ouais, voilà ». Voilà, on a quand même très peu entendu parler du fait que Nous Vivrons, qui était donc autorisé à défiler, n'a pas pu défiler cette année.
Et du coup, maintenant, donc on revient dans notre plateau et notre question à tous les collectifs présents, du coup, c'est concrètement comment ça s'est passé, comment on en est arrivé à ce blocage de Nous Vivrons le 8 mars dernier, donc 2026.
Peut-être que pour ça, il faut revenir sur la genèse de l'interorga. Enfin, je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Parce que du coup, cette interorga, elle s'est montée progressivement. Elle a changé de composition au cours du temps aussi. Et elle est vraiment... elle a été lancée après l'interdiction de la manifestation radicale féministe de nuit du 7 mars dernier 2025, que le préfet a tenté d'interdire. Mais n'y est pas parvenu. Mais notamment sur la base qu'on appelait, donc l'Assemblée féministe Paris-Banlieue, appelait à cette manifestation avec Urgence Palestine et Samy Doun. Et ça a été vraiment un motif à interdire cette manifestation, à tenter de l'interdire. Puis il y a eu le 8 mars où, comme on disait, même les syndicats, grève féministe et tout ça, ont accepté de tenter de bloquer Némésis et Nous Vivons. Et il y a eu des charges, il y a eu de la répression policière comme on n'en avait pas connu dans des manifestations féministes jusque-là. Et donc, c'est notamment des personnes de l'Assemblée féministe Paris-Banlieue et d'Urgence Palestine qui avaient tissé des liens par ailleurs, où on s'est dit, en fait, il faut qu'on lance un cadre où on pense la stratégie et qu'on attrape cette question-là sérieusement et de façon stratégique, et qu'on l'attrape avec tous les collectifs et toutes les personnes qui seraient intéressées pour faire bouger ces lignes-là. Et du coup, il y a une première organisation qui est née... en fait, dès l'été 2025, pour préparer la mobilisation du 25 novembre, il y avait tout un tas de collectifs qui a préparé cette stratégie de bloquer à l'arrière pour empêcher Némésis et Nous Vivrons de venir à la manif, parce que c'est comme ça qu'elles font. C'est comme ça que ça a été organisé le 22 novembre 2025, dont on peut parler, mais qui a pas été, qui a été une réussite d'un point de vue de récit, parce qu'il y a eu une tribune qui a été signée par plein de gens où le récit commençait à percer, mais dans la rue, c'est une autre histoire sur comment ça n'a pas tenu. Et il y a plein d'explications à ça. Et après, l'interorga s'est recomposé encore une fois, s'est réélargi pour organiser le 8 mars. Mais je voulais juste refaire un point parce que je pense que c'est important pour l'histoire. Et je vais laisser la parole, sinon je vais trop parler.
C'est pour aller exactement dans le sens que tu viens d'énoncer. Je pense qu'on ne comprend pas ce qui se joue dans le jour J si on ne comprend pas tous les liens de solidarité entre collectifs sur un même mot d'ordre antifasciste et antisioniste en amont, avec des collectifs qui ont des stratégies différentes, féministes, queer, qui ont des approches différentes, antiracistes, antifa, mais qui ressentent la nécessité là de s'organiser dans l'action et de trouver un endroit où on peut être d'accord. Et la recomposition, elle s'est faite comme ça aussi. Elle s'est faite par des rencontres qui sont faites dans la rue. Nous, je sais que c'est les Femmes Rêves qui sont venues nous chercher au départ pour tenir la rue, mais on n'était pas à l'interorga et c'est parce qu'on a participé dans la rue qu'après on a eu envie et besoin de s'investir dans l'orga en amont. Et donc c'est tous ces réseaux de solidarité qui font qu'on a de plus en plus un discours qui s'étend et qui parle à des mondes militants un peu différents, quoi, que ce soit des cocos, des totos, enfin tout ce qui est oho, les socialos, mais vraiment de gauche, etc. Et c'est comme ça que ça s'est organisé. Donc faire bloc, il y a le... Et on va en parler plus tard, les stratégies SO, le bloc tel quel, des happenings. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir et penser. Et puis, il y a comment, en fait, c'est d'abord faire corps pour avoir un vrai bloc le jour J, quoi.
Oui, oui, c'est vrai que je pense qu'on peut même remonter au 25 novembre 2024, où, en fait, Nous vivrons et Némésis avait pu défiler, parce qu'en fait, le mouvement féministe, on n'avait pas été capable de repousser, de faire bloc. C'est pour ça que... Au niveau des Femmes Rêves, on s'est dit qu'il fallait aussi aller chercher tout le monde et s'organiser pour le 8 mars aussi. En fait, c'est là où les stratégies du 7 mars et du 8 mars ont été vraiment complémentaires. Et en fait, le fait d'aller chercher d'autres collectifs de partout dans le mouvement social, c'est ce qui vraiment a permis de marcher. Parce qu'en fait, nous, notre objectif était clair, c'était qu'en fait, plus jamais l'extrême droite et les sionistes ne doivent pouvoir remarcher dans nos manifs féministes. Et en fait, si les féministes ne s'en chargent pas, personne ne s'en serait chargé. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi vraiment participé à recréer tout un lien dans des cadres, dans des interorgas où il y avait souvent des gros désaccords, d'aller chercher les syndicats, d'aller chercher les mouvements beaucoup plus autonomes, tous les collectifs. Et en fait, il y a eu, en réalité, une première organisation qui a essayé de se faire pour le 8 mars 2025, qui ensuite a découlé sur le fait de se ressembler... après le 7 et le 8, de se rassembler pour envisager la manifestation du 22 novembre pour le 25 novembre cette année. Donc en fait, ça a été vraiment un processus de longue haleine. Et au départ, en fait, il y avait très peu de collectifs. Au fur et à mesure, il y a une agrégation qui se fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés pour le 8 mars 2026, en fait, à avoir plusieurs dizaines d'organisations qui ont appelé, avec comme... Vous le disiez, en fait. Mais c'est parce que vraiment, il y a eu tout un processus qui s'est fait et qui a été fait en amont, quoi. En fait, c'est par des échecs, par des essais, par des organisations tactiques que ça a pu se faire et que les liens se sont ressoudés, les liens de confiance également.
Et c'est un peu aussi la question qui était énumérée avant, en tout début, sur le fait de parler ou imaginer des nouveaux espaces de lutte collective. C'est un peu ça ce que nous, on a aussi fait, parce que du coup, on parle beaucoup de collectifs, mais il y avait aussi des personnes autonomes qui ont participé à ces réunions, pas toutes, mais qui ont été dans ces espaces, qui sont des personnes qui sont nécessaires et sans lesquelles on ne peut pas faire bloc. Et c'est l'une des premières fois où on commence effectivement à ouvrir la porte à que ce soit des collectifs, des assos et des personnes autonomes qui sont nécessaires et fondamentales pour qu'on avance ensemble et qui nous permettent du coup d'imaginer, de dessiner aussi des nouveaux espaces comme on les connaît pas encore aujourd'hui.
Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un, quelqu'une qui pourrait nous parler, qui pourrait nous raconter pour les personnes qui n'étaient pas là, comment ça se passe concrètement le 8 mars. On arrive à Stalingrad et puis voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit à la fin de cette manif, comment ça se passe, comment ça s'organise, comment...
Je pense que on pourra pas tous raconter le même 8 mars parce qu'on n'était pas tous au même endroit et c'est ça en fait notre force. C'est que nous, dans le même collectif, on aurait pu faire un vlog chacun de notre côté, on n'aurait pas du tout vécu le 8 mars de la même manière. Mais globalement, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, et ça, c'était une première victoire. Je pense qu'aussi la victoire du 8 mars 2026, elle s'explique parce que la manif, elle était massive. C'est-à-dire que quand, à 16h30, Nous vivrons, on va essayer d'être insérés, la tête de manif est déjà République. Et en fait, ça, c'est une première victoire, je trouve, c'est qu'on a réussi à rassembler sur un 8 mars qui était antifasciste et antisioniste. Et ça, je pense que c'est la première victoire du mouvement féministe, c'est de réussir à avoir organisé un 8 mars aussi massif sur ces mots d'ordre-là. Et en fait, globalement, en fait, soit on était avec plein de camarades, soit on était à des coordinations, soit on était dans des cortèges. Je pense qu'on ne va pas pouvoir trop dire non plus comment était notre 8 mars. Mais globalement, en fait, on a tous eu un 8 mars différent et c'était un 8 mars de cohésion, ce qui était assez impressionnant. Mais l'ambiance, elle était massive et c'est déjà beaucoup, je trouve.
Et peut-être du coup, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas pu assister au 8 mars à Paris, déjà du coup, donc, pour ce qui est du bloc, en tout cas, donc on reviendra peut-être un peu plus sur l'organisation qui a été nécessaire en amont. Mais le bloc qui s'est formé du coup en fin de manif, vous parliez de plusieurs collectifs qui étaient présents ce jour-là. Peut-être que quelqu'un pourrait peut-être les présenter et aussi concrètement comment dans la rue, en tout cas, ça s'est joué.
Pardon, on a des petits. C'est la première fois qu'on fait du direct, faut être indulgente. En fait, je pense que ce qui est important de nommer et ce qui est aussi qui a fait qu'il y a une victoire à mon sens, en tout cas au sens du CLAF au moins, mais je pense que c'est assez partagé, c'est qu'on n'a jamais séparé penser le bloc et penser le corps de la manifestation. C'est-à-dire, après, ça peut être un peu abstrait pour des personnes qui ne sont pas dans les dessous de l'organisation, mais en gros, la manifestation du 8 mars, elle est déposée par Grève Féministe. Donc, Grève Féministe, c'est des orgas féministes institutionnels, des syndicats, des partis politiques. Donc ça, c'est une grosse masse. Et nous, on a organisé une interorga qui était autonome de cette masse-là, parce que, pour plein de raisons. Et donc, on était des collectifs et des individus plutôt... on va dire, sur ces lignes minimales, antifascistes, antisionistes, antiracistes. Et on s'est dit, on va penser à la fois être autonome en termes de cortège massif et de ligne arrière. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu avec les manifestations précédentes, c'est que des lignes sans une masse, ça ne tient pas. Et que le bloc et la manifestation sont interdépendants, sont interreliés, ont besoin l'un de l'autre. Et fonctionnent forcément ensemble. Et si on n'a pas compris ça, on a des échecs dans la rue. Et donc, on a compris ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait une composition qui reflète les différences de stratégie et de tactique. Et donc, on avait à la fois... on a appelé avec une affiche qu'on a placardée partout avant sur nos mots d'ordre. Il y a plein d'organisations dont les logos sont sur l'affiche et je pense que si je dois les citer, je vais en oublier. Mais en gros, on pourrait dire que c'est une composition de collectifs qu'on voit labellisés féministes, collectifs antiracistes pour la Palestine et collectifs même écolos. On avait les soulèvements de la terre, par exemple, enfin une section locale, quoi. Queer, pardon. Vous me compléterez. Et donc, à la fois, on a appelé des gens à rejoindre notre cortège, qui était en fait un espèce de cortège d'interorga un peu gros comme ça, et qui était massif lui aussi, et des personnes qui étaient prêtes à user de leur corps pour faire des lignes, quoi. Mais je pense que c'est important, sinon on ne visualise pas le truc.
Pour pouvoir citer toutes les organisations, on avait des organisations féministes comme Nous Toutes Île-de-France, avec Nous Toutes Paris Nord, Nous Toutes Paris Sud, Nous Toutes 93 antiracistes. On avait des collectifs queer comme le collectif Insurrection Trans, Les Invertis, le BAD. On avait des collectifs féministes comme le CLAF, Du Pain des Roses, les féministes révolutionnaires du coup. Et on avait aussi les camarades iraniennes avec Féministes Ordina. Et pour citer tous les collectifs qu'il y avait sur l'affiche, on a Urgence Palestine, l'Union Juive Française pour la Paix, Tzedek. On avait l'AFA, donc les Antifas qui étaient avec nous également, les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion, Zora, Young Struggle, Peau Noire Ligne Rouge, Révolution Féministe Versailles et les Dégommeuses. Et je pense que c'est important de citer parce que vraiment, merci à tout le monde, parce que sans un de ces collectifs, ça ne marchait pas. Et les autonomes.
Et c'est bien de rappeler que le 8 mars, c'est une manifestation qui a lieu depuis des années, des dizaines d'années. Et là, cette année, on était 130 000, selon la CGT, peut-être moins selon la police, mais on était 130 000. Donc c'était important de mobiliser tout le monde et pas de mobiliser 15 personnes derrière, 15 personnes sur le côté. C'était vraiment d'impliquer tout le monde, d'impliquer les familles, d'impliquer les amis, d'impliquer tout ce qu'on pouvait.
Et je trouve que ce que tu venais de dire avant, c'est assez important et c'est aussi un peu le cœur un peu de l'action, en tout cas pour pas mal d'entre nous. Et c'était le fait de relier, le fait de faire bloc et le corps de la manifestation. Et là, je reviens aussi à ce qui était dit par le premier extrait sur le fait de la vulnérabilité, où la vulnérabilité est toujours un peu imaginée, racontée comme quelque chose de négatif, alors que c'est juste le fait d'être humain et le fait d'être vivant, ça fait qu'on est vulnérable. Voilà. Et à ça, le contre-coup à ça, c'est toujours du coup ce besoin de quelque chose de violent, de nationaliste fort, alors qu'en fait, justement, le fait de reconnaître qu'il y avait une sorte de... et plusieurs sortes de vulnérabilités qui étaient le résultat de nos différences en termes, ce qui sont les enjeux de la rue et les enjeux politiques dans lesquels on s'en sert. Le fait d'avoir tout ça en tête, ça a aussi permis du coup, de faire en sorte qu'il y avait une multiplicité d'actions, que du coup n'était plus centré que sur le fait d'être fort dans un sens plus masculiniste comme c'est raconté, mais aussi plus il y avait beaucoup de care, il y avait beaucoup de soins que passait pas que par du coup le service d'ordre, mais il y avait aussi des bases arrières, il y avait le fait de se retrouver dans les rues entre nous, enfin le fait d'avoir passé autant de temps, ce qui était quand même beaucoup dans la préparation de ce moment-là, ça fait que quand on en est dans les rues, on pouvait se reconnaître entre nous et chacun pouvait prendre à chaque fois des nouvelles de ses propres camarades et des personnes autonomes, et je trouve que ça c'était quand même une force, et je trouve que c'est quand même toujours important de mettre ça sur la table, et c'est en tout cas d'un mon point de vue, c'est le résultat d'une reconnaissance de la vulnérabilité comme une sorte de force et pas comme une faiblesse.
Est-ce que justement on fait un point sur comment c'était, peut-être un point sur la base arrière et le care? Essayez de que vous puissiez nous expliquer ça ou comment ça a été pensé, à quel moment.
Ok, je vais être. au niveau de la base arrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en manifestation, on ne part pas seul, on part avec plein de monde. Et là, justement, on a réussi à faire que tout le monde ait des liens de confiance. Au niveau de la base arrière, en fait, il faut des personnes qui soient capables de nous garantir notre sécurité s'il se passe quelque chose. Qui se passe mal, en fait, que ce soit une interpellation, qu'est-ce qui soit... En fait, tout ce qui pourrait être envisageable, il y a des personnes qui veillent sur nous, et en fait, partir en manifestation... Il faut savoir que dans le contexte actuel, on ne peut pas partir en manifestation sans avoir une legal team derrière, par exemple, sans avoir des garanties de représentation. Et en fait, il y a tous des enjeux d'anti-rep, d'anti-répression en réalité, qu'il faut prendre en compte. Et en fait, former le maximum de personnes, c'est protéger le maximum de personnes, et il faut que ces formations puissent être transmises. Et je vais laisser les camarades qui ont fait ces formations plutôt en parler, mais il y a tout cet enjeu-là et l'enjeu du care. Je vais aussi laisser les camarades en parler aussi.
Et il y a aussi le fait d'avoir des personnes de confiance qui du coup peuvent être à la fois dans l'espace de la manifestation et à la fois aussi que ça soit à la maison ou ailleurs, pour que si jamais il y a quoi que ce soit, du coup que les personnes sachent qu'elles sont pas laissées à soi-même, sachant que du coup le rôle de la base arrière, c'est aussi c'est pas seulement celui de s'assurer du bien-être des personnes sur le moment, justement comme tu l'as dit avant, c'est aussi celui de préparer les personnes à l'action, quelle qu'elle soit, mais aussi le care qui vient après, parce que c'est un moment qui est fort, qui peut bien ou mal se passer, parfois c'est un peu des deux, et c'est toujours bien d'être préparé aux deux et de savoir que si c'est une victoire, on peut célébrer ensemble, que si ça va pas, pour le coup, il y a quelqu'un qui est à la fois formé ou pas, mais qui est là, et qu'il y a le collectif qui peut accueillir ce besoin, que ça soit sur l'immédiat, dans l'immédiat ou alors dans les jours à suivre. Et c'est pour ça aussi que nous, on avait aussi mis en place un groupe care justement pour ces questions-là, sachant que généralement, dans le militantisme, on oublie que le care, c'est nécessaire et c'est politique. Est-ce que si on ne se prend pas soin de nous, on ne va pas tenir. Et il faut qu'on tienne, parce que là, c'est parti pour une longue, une longue mission, on va dire.
Ouais. Et moi, je voulais juste faire un ajout, mais le care, c'est... quelque chose à penser à différentes échelles aussi, à la fois nous on l'a pensé en interne à notre collectif, donc où on a fait une base arrière juridique avec des avocats, où on avait des personnes qui étaient référentes care au sein de la manifestation et en arrière aussi avec les garanties de REP. Il y a aussi le niveau au sein de nous qui appelons à cette manif antifasciste, antiraciste, on a mis un tracé avec les accès PMR, les toilettes, on a former un SO aussi pour la sécurité des manifestants et manifestantes. Et il y a aussi, du coup, en amont, essayer d'auto-former les gens. Et donc là, je vais plutôt laisser les camarades s'exprimer là-dessus.
Un truc qui a été amélioré aussi par rapport aux dernières fois, c'est justement cet aspect de la formation.
Moi, je dirais que l'aspect de la formation, en fait, c'est inclure le CAIR dans la stratégie et jamais penser la stratégie sans le CAIR. Et je pense que ça, c'est une perspective féministe aussi sur qu'est-ce que c'est de la stratégie politique. Et donc, quand on dit formation, c'est on s'est rendu compte en animant des formations qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes ou qui veulent faire, mais qui ne savent pas par où commencer, qui savent pas ou qui ne se sentent pas, qui peuvent avoir peur parce qu'elles ne savent pas comment se projeter dans une situation. Et donc, il y a vraiment un enjeu à cet endroit-là. À la fois de former, donc c'était vraiment du pratico-pratique, de c'est quoi faire une ligne, c'est quoi se tenir ensemble, des formations anti-répression, parce qu'en fait, on se rend compte, plus on milite, plus on se rend compte qu'on fait des formations anti-répression. Moi, ça fait plusieurs fois que j'en fais et je me rends compte que les personnes, en fait, ne connaissent pas leurs droits. En fait, c'est juste apprendre ses droits, faire de l'anti-répression au final. Et donc, il y a tout ça qui est très important. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Et oui, se tenir ensemble et aussi des modes d'organisation, des modes de déplacement collectif qui étaient, à mon sens, qui se sont beaucoup répandus, par exemple, dans les mouvements écolos. Enfin, je pense au soulèvement de la terre, par exemple, et qui sont en fait des outils assez pratiques pour s'organiser au sein de manifestations et qui sont nécessaires, du coup, à être transmis. Et c'est tout ça. Et former les gens, former les personnes, ça peut leur donner confiance le jour J. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Enfin, on n'a pas fait des immenses débriefs dans des immenses salles avec tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des lignes ce 8 mars qui n'en avaient peut-être jamais fait. Et je pense que ça a créé aussi des précédents de se sentir dans son corps qu'on est puissant et puissante. Et en ces temps difficiles, je pense qu'on en a besoin aussi, quoi. Voilà.
Ouais, c'est pour rajouter, mais pour aller vraiment dans le sens de ce que tu es en train de dire, c'est que les formations à faire bloc, elles sont énoncées comme ça. Et on s'imagine que c'est aussi se former à recevoir de la violence. En fait, c'est du CAIR de se former à recevoir de la violence, mais c'est aussi surtout se rendre compte de la puissance des corps mis ensemble. Et donc, en fait, c'est déjà ultra utile dans une manif, mais c'est aussi très, très politique comme type de formation, parce que je vais parler en mon nom propre, mais en fait... En tant que meuf, j'ai appris à avoir peur de la violence, en fait. Et tout d'un coup, la violence est déplacée quand on sent que la résistance, elle est de groupe. Et en fait, on se sent beaucoup plus apte à tenir. Et ça met un autre rapport au corps et à l'énergie collective. Et ça crée aussi des liens de solidarité beaucoup plus forts ensuite. C'est-à-dire que les liens de confiance, ils se créent aussi parce qu'en fait, on tient ensemble, qu'on se regarde, qu'on sait qu'on va être là, qu'on ne va pas bouger. S'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Et donc, du coup, ce n'est pas une violence individuelle et masculine, masculiniste dans son truc, quoi. C'est vraiment un front collectif. Et en fait, après, ça donne envie de remiliter ensemble et de recréer du commun, quoi. Ça, c'est super important parce que ça ne se joue pas... pas dans la tête et dans la rationalité de ce que c'est que lutter contre le fascisme, ça se joue vraiment à l'intérieur des tripes.
Pour compléter, effectivement, sur les formations au service d'ordre, à faire bloc, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on n'était pas dans l'attaque, c'était vraiment une stratégie d'autodéfense collective. Et ça, je pense que c'est assez important parce qu'en fait, le but, c'était pas d'aller attaquer, l'objectif était de marquer une démarcation physique sur la démarcation idéologique, c'est-à-dire que les sionistes et l'extrême droite ne peuvent pas venir. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on a formé les personnes à faire bloc. Et en fait, pour le 8 mars 2025, on est allé voir dans plein de collectifs antifa. On avait été formés aussi par d'autres féministes via la coordination féministe, qui est un ensemble d'organisations féministes nationales qui nous ont formés depuis Marseille. Les choses, elles ont tourné. Et en fait, ça fait 2 ans que les féministes... et les mouvements queer se forment vraiment ensemble à faire ce bloc d'autodéfense et qui n'est pas dans l'attaque. Je pense que c'est important de le préciser aussi.
Et je rajoute juste une dernière chose, parce que du coup, on a parlé beaucoup des préparations en amont, de comment on était dans les rues, le fait de faire bloc physique. Or, savoir qu'il y a beaucoup de corps qui sont tendus, qui sont dans ce bloc-là. Mais je trouve que c'est toujours aussi important de savoir qu'il y a aussi beaucoup de rôles qui se jouent en amont, pendant et après pour des personnes qui ne sont pas dans ces rues-là. Et que pas mal de stratégies qui viennent dans la base arrière et pour le CAIR, c'est des stratégies qui viennent, des stratégies des luttes anti-validistes, qui pour les personnes qui ne savent pas, c'est du coup les discriminations vers les personnes handicapées, qui sont trop souvent exclues de ce type de... de lutte ou de discours. Et du coup, je trouvais quand même important de remettre dans le centre aussi le rôle que nous, moi du coup, je suis entre autres dans les Valideuses, le rôle que nous, on a pu jouer dans ces espaces-là.
Merci. Et du coup, en fait, donc il y a pas mal d'éléments qui ont déjà été évoqués, mais on s'était posé la question pour le SO, mais je pense que c'est une question qui s'élargit à toutes les pratiques en fait de care et d'autodéfense dont on vient de parler. Toutes ces pratiques-là, comme vous l'avez tous dit, ça vient et elles se retrouvent quand même un peu dans plein de différentes luttes. Mais quand on parle de pratiques et de stratégies d'autodéfense et notamment d'anti-REP, est-ce que dans des espaces féministes, elles se manifestent ou elles se réfléchissent d'une autre manière ? Est-ce que, par exemple, être SO pour une manif féministe, ça se réfléchit différemment ? Vous avez parlé de care comme pratique féministe, mais est-ce qu'il y a des points d'attention ou des un peu traductions de pratiques, de stratégies qui émergent du coup dans des espaces de lutte féministe?
Oui, en fait, je pense qu'il faut rappeler que le fait que les féministes aient leur propre service d'ordre, c'est très politique, dans le sens où en fait, c'est à nous de nous charger de virer les fascistes, les sionistes, les racistes de nos manifestations. Et en fait, un SO féministe, c'est un SO qui est d'abord fait par les féministes, par les femmes, par les minorités de genre, par les personnes concernées. Et ça, c'est important aussi que politiquement, on puisse s'en saisir. Et aussi, en fait, notre but dans les formations, notre but, c'est aussi de rassurer, de montrer qu'en fait, en réalité, c'est le collectif qui fait bloc, c'est pas l'individu. Et ça, c'est une vraie opposition avec en fait l'idéologie de l'extrême droite de fétichiser les corps puissants, de fétichiser la personne qui va réussir à sauver tout un groupe, alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment le groupe, c'est la force collective. C'est vraiment ça, en fait, qui fait qu'un SO, il est féministe. Et en fait, on doit s'en charger dans nos manifestations. Et aussi, en fait, le service d'ordre, parfois, ça peut être un peu décrié, mais en fait, il faut rappeler que le service d'ordre, il existe également pour éviter que ce soit à la police d'intervenir et qu'elle puisse nous réprimer en justifiant un espèce de maintien de la manifestation. Donc, en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, sécuriser nos propres manifestations, c'est aussi éviter d'aller vers la police. Et là, en plus, notre SO féministe n'était pas non seulement pour éviter que la police intervienne, mais c'était aussi contre la stratégie de la police d'imposer « nous vivrons dans la manifestation ». Et en soi, ça, c'était éminemment féministe. Et je pense que l'idéologie antifasciste et antisioniste était éminemment féministe à ce moment-là. Et aussi de marquer la démarcation qui est physique, en fait. Et c'est à nous de nous en charger, c'est à nous de mener les choses, même s'il y a d'autres composantes qui se sont rejoints à nous. Mais c'est vraiment les féministes et les mouvements queer qui s'en sont chargés de mener tout ça.
Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est que faut imaginer, je pense que quand on dit service d'ordre, on a une vision de ce que c'est qui est ramené aux grandes manifs syndicales avec la cordelette, les mecs qui ont des casques de moto et tout ça. En fait, c'est pas ça. Et justement, ce qui est chouette dans les mouvements féministes, c'est que c'est venu interroger même la notion de ce que c'est qu'un service d'ordre. Comment on se protège, comment on s'organise. Et donc, cordelette, c'est est-ce qu'il y en a besoin ou pas ? Parce qu'est-ce qu'on a des camions ou non, si on n'a pas de camion, est-ce que ça sert vraiment de faire une ligne devant un camion qui n'avance pas parce qu'il n'y a pas de camion ? Ça sert à rien. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se re-questionnent et se réorganisent. Et donc, en fait, service d'ordre, ça peut être simplement aussi qui est sur quel canal de diffusion pour dire, en fait, devant, ça avance comme ça, ça avance pas comme ça. Si là, on s'arrête et que les autres marchent, ça crée un trou, ça nous protège plus. Et en fait, c'est aussi juste comment on communique pour que la manif reste un groupe uni qui s'autoprotège, quoi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment... Et après, il y a plein de mini-strates à l'intérieur de quel sens on donne à un service d'ordre. Mais du coup, c'est assez chouette parce que ça permet aussi de péter les oppositions qui seraient des oppositions comme si elles étaient idéologiques, alors que c'est des choix stratégiques. Quand on dit faire bloc, et voilà, nous, on est issus du pink bloc, mais quand on dit faire bloc ou faire SO dans une manif comme ça, en fait, c'est la même chose parce que le projet est le même, que nos savoir-faire peuvent céder et qu'en fait, on ne ressemble pas aux gars de la CFDT le 1er mai, vraiment pas, quoi.
Ouais, je complète juste en deux secondes un truc important. Je pense que juste parce qu'on parle de service d'ordre et que c'est, je pense pas que ce soit spécifiquement féministe, mais un gros travail qui a été fait aussi, c'est de former à c'est quoi le mandat politique du service d'ordre. Et en fait, c'est aussi un espace qui a été un espace de formation politique sur c'est quoi nous vivrons en fait, c'est quoi le sionisme et pourquoi c'est important que aujourd'hui, en tant que féministe, on se revendique antisioniste. En fait, ces espaces-là, tous les espaces, ils nous ont servi à ça. Et le service d'ordre, il a aussi été, les personnes qui y étaient ont aussi tracté pendant la manifestation et ont aussi eu un rôle d'information, en fait, au-delà de l'encadrement. Mmh.
Tout à fait.
Merci. On va faire une petite pause et on va s'écouter Galbi de Léna. Voilà. Hein ? Ça fait plaisir, ça.
J'adore cette chanson.
De la boxe taille, gère mes attaques en bateau saille. Et je m'accroche au même rêve que j'avais quand j'étais môme, mais que déjà je savais. Et moi, tous mes amis connaissent les paroles quand mon tour arrive. Je me suis affermie, les stromons sous mon lit viennent de la vraie vie. J'ai pris tellement de temps à mes mecs, maintenant pour mon entourage, il va à donner. J'ai surmonté les épreuves que mon cerveau a bâti sans les mettre dans un doré.
Bonjour, on est toujours sur FPP 106.3 FM et vous êtes du coup dans l'émission de Langue de Fronde. Et aujourd'hui, on a en plateau le BAD, le CLAF et les féministes révolutionnaires. Et on parle globalement, on n'a toujours pas de titre d'émission, mais d'antifascisme et de féminisme. Et du coup, donc pour ces dernières minutes d'émission, on avait un peu une question très large, mais qu'on va vous laisser interpréter comme vous voulez. Globalement, tout au long de l'émission, on a un peu parlé de la montée du fascisme et de comment ça nous pousse, ça nous force à repenser ou à penser de nouvelles stratégies, modes d'action et d'organisation. Et du coup, globalement, aujourd'hui, notre dernière question pour vous, c'est comment on se mobilise, maintenant que le 8 mars est passé, comment on se mobilise en tant que féministe antifasciste, antiraciste, etc. À vous de jouer.
Vas-y, vas-y.
Eh ben, déjà, on a un petit calendrier qu'on pourra après partager d'une manière ou l'autre. Je trouve que ce qui est aussi important à dire, c'est que bah, c'est un peu porter une idée d'une culture de l'attention, c'est-à-dire de bien regarder quels sont les enjeux qui sont devant nous, pas être dans une démarche qui nous porte à ne pas regarder les problèmes, mais au contraire de les chercher à les adresser, à résoudre. Se rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, de validisme ou autre et de fascisme, bah on peut pas ne pas parler du colonialisme et qu'aujourd'hui le projet fasciste et colonialiste est extrêmement lié aussi à celui de la colonisation de la Palestine et donc du sionisme. Et donc c'est aussi comment faire bloc et ensemble à travers tous ces différents enjeux, sans oublier du coup tous les aspects minorisés qui nous relient.
Je pense qu'il faut qu'on ait une perspective en fait qui est révolutionnaire. Nous, on porte la stratégie de la grève générale féministe, c'est-à-dire que il faut tout bloquer pour que leur monde s'arrête. Ça marche en fait pour rappeler que en fait le fascisme, il s'appuie sur le capitalisme qui lui-même repose sur du néocolonialisme et sur du racisme. Donc en fait, il faut que leur système il s'arrête et ça, il faut vraiment pas oublier que la lutte des classes est pour mener vers la révolution est vraiment important et c'est pour ça que l'antifascisme il doit être retrouvé dans toutes nos lignes rouges. Il doit se retrouver en France, en Europe, à l'international, c'est-à-dire soutenir les inculpés dans l'affaire de Budapest, continuer à le faire, faire toujours des cadres unitaires, antifascistes, antiracistes, décoloniaux, antisionistes, pour continuer à pouvoir en fait être en solidarité internationale avec les peuples opprimés. On soutient la Palestine, on soutient le peuple iranien pour une autodétermination des peuples, Rojava, soutenir les initiatives comme Zehra Kürtay, une journaliste turque qui était menacée d'extradition et donc de menaces. Et en fait, tout ça, ça doit passer par la lutte des classes et pour mener vers une stratégie globale de grève générale féministe et révolutionnaire.
Oui, qu'est-ce qu'on rajoutait à ça? Au CLAF, on souhaite continuer à cultiver les alliances et à vraiment continuer à acter. Enfin, là, on a une première victoire stratégique, mais on ne se repose pas du tout sur nos lauriers. Et un des trucs importants, c'est d'acter ce tournant féministe, en fait, de rupture avec le féminisme civilisationnel, avec le fémonationalisme. Reconnaître que le féminisme a pu être le terreau de développement d'idéologies réactionnaires et que nous, on n'est pas d'accord avec ça, qu'on ne porte pas ce féminisme-là et que notre féminisme, il ne sera rien s'il n'est pas antifasciste, antisioniste et antiraciste.
Et donc, on a prévu quelques petits événements dans le mois qui suit. Déjà, le CLAF, avec Urgence Palestine, on organise un tournoi de foot le 26 avril. Plus proche, ok. Donc le 26 avril, on a prévu un tournoi de foot qui sera à Noisy-le-Sec. Donc c'est sur Instagram, l'Instagram du CLAF, l'Instagram d'Urgence Palestine. Venez jouer au foot, venez nous montrer comment vous maniez la balle. Et arrivera 2 semaines après, le 9 mai, et enfin tout un week-end, le week-end du 8, 9, 10 mai. Un week-end d'Antifa, le temps fort de ce week-end, ça sera une manifestation le samedi à 14h. Pareil, plein d'infos sur Instagram.
Oui, pour préciser, le week-end antifasciste, il est aussi antiraciste et décolonial, parce qu'il y a le village antifasciste le 8 mai, il y a la manifestation donc le 9 mai, le 10 mai, on appelle aussi à rejoindre la manifestation de commémoration de l'esclavage, et il y a le 16 mai aussi pour la Nakba, où il va y avoir Urgence Palestine, Tzedek et tous les collectifs qui organisent une marche pour contrer, commémorer en fait la Nakba qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'est important.
Non, mais je crois que tout a été dit parce qu'on va tous et toutes être à ces endroits-là. En fait, vous l'aurez compris globalement sur ce plateau, on s'entend bien et on bosse ensemble. Donc voilà, juste pour dire que peut-être ça rejoint les propos. De ce qu'on veut pour plus tard, évidemment, c'est un ordre qu'il faut passer par la révolution, hein. On est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi un projet d'émancipation collective, vraiment, à partir du principe où s'il y a une personne qui n'est pas encore libre et qui ne peut pas s'exprimer complètement et être ce qu'elle veut complètement, nous ne sommes pas une société qui est émancipée. Et donc, le féminisme sera toujours un espace où on va inclure toutes les luttes pour permettre une émancipation toujours plus large de tous et de toutes, quoi.
Merci. Faut se quitter. c'est le moment. Bah ouais, on serait bien resté avec vous ou faire 3-4 émissions de suite. Un grand merci au CLAF, aux féministes révolutionnaires, au BAD d'être venus. C'était vraiment bien. Merci à Elia Melou à la technique et à bientôt sur Langue de Fronde FPP 106.3. Et on se quitte en écoutant des sons de la manif du 7 mars, du coup.
Et merci à vous pour l'invitation.
Merci à vous.
Merci,
merci tout le monde.
Allez, 3, 4, vénère.
On va bien se monter en l'air, des terres, comme face aux identitaires. Un coup de manif, un coup de canif.
Je sais qu'on a tous très très envie de marcher là, mais du coup, petit rappel.
Hein?
Faut que je parle fort, mais après je crie en fait. Cette manifestation est en non-mixité choisie. Trans, PD, Gwyn, bi, folle, queer et meuf. Ce soir, nous prenons la rue ensemble. Et la suite, vous la connaissez.
Paris, banlieue, Antifa. Paris, banlieue, Antifa.
En vrai, ça résonne différemment cette année quand même.
Eh bien, on rencontre trois personnes qui ont des pancartes. Donc, ouais, si jamais vous voulez lire ce qu'il y a écrit dessus.
164 féminicides en 2025, mais c'est pour un néo-nazi qu'on fait une minute de silence à l'Assemblée nationale.
Moi, j'ai... Ici, on pleure pas les fachos. Ah, non, pardon. Ici, on pleure pas les néo-nazis.
Ouais. Très bien. Et toi ?
Moi, j'ai mis pas de féminisme sans enfantisme.
Le fascisme passera pas. Le fascisme passera pas.
Abat le patriarcat, la transphobie d'État,
la famille, le
lesbophobie, le racisme. Nous ne voulons pas de ça.